Donc, troisième conférence, le titre c'est « Aimer toujours et rien que pour aujourd'hui ». Alors, on a vu dans les conférences antérieures que l'amour conjugal est jamais sans accrochage et certaines difficultés, d'où l'importance, vous voyez, de l'humilité. Je n'en ai pas parlé explicitement dans la dernière conférence, bien que c'était dans le titre, mais c'était en filigrane, en quelque sorte, durant toute la conférence. C'est cette humilité qu'on doit avoir dans l'amour, humilité par rapport à nos propres capacités d'aimer, et l'humilité également dans le fait de reconnaître que l'autre peut avoir du mal aussi, donc à aimer à ses limites. Donc ne pas exiger trop, ni de son pauvre petit cœur, notre cœur, mais et aussi du cœur de l'autre. Alors, comment donc persévérer jusqu'à la fin avec cet amour, avec un cœur un petit peu, je dirais, étroit, qui est le nôtre, et celui d'en face aussi, soyons réalistes, nous ne sommes que des pauvres êtres humains. Eh bien, aimer toujours et rien que pour aujourd'hui. Vous reconnaissez peut-être une petite sainte, donc avec un certain poème, rien que pour aujourd'hui, vous connaissez ce poème magnifique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et qui est vraiment bouleversant. Quand, je ne sais pas si vous l'avez lu posément, calmement, mais il y a quelque chose. Elle a écrit ça quand c'était la fin de sa vie, donc elle savait qu'elle était mourante presque, et souffrait énormément. Et c'est vrai, quand on souffre beaucoup d'un point de vue physique ou d'un point de vue psychologique, parce qu'en plus, vous savez que durant les deux dernières années, elle avait l'épreuve de la foi. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'épreuve de la foi. Moi, c'est ce que je redoute le plus. Grâce à Dieu, je ne l'ai jamais eu. On a d'autres épreuves. Hein. Mais ça, c'est quelque chose qui me fait terriblement peur. Le fait, surtout pour un religieux, pour une religieuse, vous êtes marié. Donc vous avez quelqu'un. Moi, j'ai que le bon Dieu. Donc si on a l'impression de ne plus aimer le bon Dieu, on a l'impression que le bon Dieu nous aime plus, mais c'est juste insupportable, quoi. C'est insupportable. Parce que la vie devient sans sens. D'un point de vue humain. Alors après, justement, dans les nuits de la foi, il y a encore la foi, précisément. Mais on ne ressent plus l'effet de la foi. Donc elle a vécu ça pendant 2 ans. Elle a dit qu'elle s'était assise à la table des pécheurs. Et que plus tard, quand elle sera au ciel, elle prierait la table de ceux qui étaient athées. Parce qu'elle avait un sentiment presque comme quelqu'un d'athée. Et donc c'est impressionnant ce poème, parce que voilà, quand vous serez vraiment en difficulté, peut-être, j'espère pas, hein, mais si ça arrive un jour dans votre couple, rien qu'aujourd'hui je veux bien, Seigneur. Mais rien qu'aujourd'hui. Uniquement aujourd'hui, mais pas les autres jours. Parce que les autres jours, je ne sais pas si je serai capable. Donc cette prière-là, gardez-la bien. Vous la trouverez. Vous avez même un poème qui a été mis en chanson. Donc par Natacha Saint-Pierre, vous connaissez, donc Thérèse s'appelle. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. mais en tout cas, les paroles sont dites par Michael Lonsdale. Et voilà, donc ça peut-être mettre en relief ces paroles-là. Alors on va creuser un peu ça, parce que ça me semble vraiment important, et même c'est plein d'espérance. C'est plein d'espérance, le fait de rien qu'aujourd'hui. Le plan que je vous propose, c'est première partie, aimer rien que pour aujourd'hui. Et deuxième partie, aimer toujours. Alors, c'est pas très original par rapport au titre, mais au moins c'est clair, vous arriverez à suivre. Donc première partie, aimer rien que pour aujourd'hui. Une chose qui m'a marqué il y a quelques années, parce que vous savez, on évolue tous, hein, donc, et d'un point de vue spirituel aussi, on a des grâces. Et je me suis aperçu que on allait mourir dans un instant T. Et ça, pour moi, c'était un choc. On ne va pas mourir dans le passé, et pourtant, on est toujours dans le passé. On ne va pas mourir dans le futur. Mais on va mourir dans un instant présent. Vous voyez l'instant présent aujourd'hui, là? Vous voyez quelle heure il est? Il est 2h11. Eh bien, vous allez mourir dans un instant précis. Ça sera cet instant-là. Vous n'allez pas mourir. Là, si vous mourrez, vous mourrez maintenant. Vous n'allez pas mourir, plus tard ou dans le passé. On va mourir dans un instant T. Et c'est l'instant présent qu'on vivra à ce moment-là. Et ça me semble... Et on va être déterminé pour l'éternité par rapport à cet instant T. Et c'est quand même quelque chose qui est frappant, parce que encore une fois, on vit toujours, la plupart du temps, regardez vos pensées, vous êtes toujours en train de penser à ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Là, je suis sûr que vous êtes en train de penser ce qui va se passer. Donc, cette conférence, franchement, il est gentil, mais ça commence à bien faire. Je suis là depuis 10h ce matin, là, même pas 9h15. Donc, vous êtes en train de penser à vos enfants, je suis sûr. Là. Baissez pas les yeux, là. Donc. Eh bien non. Et justement, ce qui est important, c'est de vivre l'instant présent. Et l'instant présent est simple. Il est simple, l'instant présent. Vous voyez, vous êtes là à m'écouter, c'est simple. Alors que le passé, ça peut être compliqué, quoi, le passé. On ne maîtrise pas le passé. Il est là et il nous habite. Et le futur, alors c'est pire. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Et si le pape signe encore un truc, qu'est-ce qu'on fait, là? Franchement, là. Et si Macron fait une bêtise dans cette guerre d'Ukraine, là, et qu'on se prend une bombe atomique sur la tête, là, vous n'avez pas pensé à ça, hein? Donc, ou peut-être que si. Mais vous voyez, le futur est angoissant quelque part, parce qu'on ne le maîtrise pas. L'instant présent, on le maîtrise. C'est l'instant que je vis, là. Donc j'ai une prise sur lui. Et donc, on sera déterminé, vous voyez, par rapport à cet instant-là. Vous voyez, le bon larron, c'est un petit malin quelque part, hein. Il a mené une vie qui était bon, pas forcément des plus édifiantes, mais n'empêche qu'il se convertit au dernier moment, face à notre Seigneur, contrairement au mauvais larron. Et notre Seigneur lui dit, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Donc vous voyez, il meurt à un instant donné dans l'amour de Dieu, et donc il va au paradis. Autre exemple, contre-exemple, Judas. Judas, disciple du Christ quand même. Judas a vécu avec le Christ. Il a vu les miracles du Christ. C'est quand même dingue, quoi. Nous, moi, laissez-moi 2 minutes avec le Christ, je suis fou de bonheur, quoi. Et lui, il a passé des années avec lui. Il a vu des miracles. Il l'a vendu pour du fric. Pour du fric. Tout de dingue. Le cœur humain, c'est quand même quelque chose de bizarre, quoi. Il était bien avant, mais son dernier instant. Il meurt en se suicidant. Et notre Seigneur a dit, il est très préférable pour lui qu'il ne soit pas né. Donc c'est quand même... Vous voyez. Donc c'est l'instant présent qui va nous déterminer pour l'éternité. Alors, certains me disent, ouais, mais c'est effrayant votre truc là. J'ai l'impression que tout se joue là en l'espace d'un instant présent. Oui, mais attention. On mourra comme on aura vécu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été gravement malades avec des maladies, vous savez qu'on est à deux doigts d'y passer, où on souffre énormément. Un frère, par exemple, qui a failli mourir comme ça, il m'a dit c'est terrible parce qu'en fait, il ne reste plus que des réflexes. Il ne reste plus que des réflexes. On croit qu'on va sanctifier, on va se récupérer à la fin, on va mourir en se cabrant, en faisant un warning, comme on dit, en moto, là, vous voyez, une roue arrière, donc on va rentrer au ciel comme ça. Pour tirer sur la bécane, ce jour-là, ça fait mal. Parce qu'on n'a pas la santé pour ça. Donc on vit, on va mourir selon nos réflexes. Et si on a bien vécu, ben on mourra bien. Mais ceux qui disent on se rattrapera toujours à la fin. Allez, on mène la vie, hein, on va s'éclater, on va pas s'embêter avec l'histoire de bon Dieu, tout ça. Puis à la fin, bon, on se convertira, quoi. Parce que faut faire gaffe, on ne sait jamais, au cas où l'enfer existe. Donc, mais ça, c'est pas du tout gagné. Donc à mon avis, on risque de rater le virage, là. Et de s'entourer dans les décors, quoi. Parce que précisément, les réflexes ne seront pas bons à ce moment-là. Donc, vous voyez, bien sûr que tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on accumule comme effort et tout ça, comme difficulté, mais les vivant bien, ça va nous servir pour ce dernier instant. On dit aussi que l'arbre tombe toujours vers où il penche. Vous voyez, ce dernier instant, cet instant présent, pour ce dernier instant, oui, disons, cet instant présent, Et véritablement le moment le plus important. Ce qui importe, c'est le moment que nous vivons, à l'instant présent. Mais d'un point de vue psychologique aussi, c'est très important, l'instant présent. Vous connaissez certainement la méthode Vitoz. Non, vous ne connaissez pas la méthode Vitoz. Certains connaissent, d'autres pas. Donc c'est une méthode psychologique qui consiste donc à faire travailler des personnes, à prendre conscience de ce qu'ils font concrètement à l'instant présent. Par exemple, parce que ces personnes-là, souvent, ont le cerveau droit qui s'emballe. Le cerveau droit, c'est le cerveau de l'intuition, des émotions. Alors, le cerveau gauche, c'est celui de la raison. Et chez les épouses, par exemple, le cerveau droit s'emballe assez rapidement parce que les femmes sont plus enclines à des émotions. Et donc, le problème, c'est que ça s'emballe et donc, vous savez ce que c'est peut-être, hein. Donc c'est pas bon du tout pour la personne parce qu'elle est inquiète, elle est angoissée, elle est stressée, parce que ça s'emballe. Donc l'idée, c'est de faire revenir donc au réel. Donc par exemple, si je vous dis quelqu'un qui est angoissé, j'ai dit bon, c'est la fin de l'haricot, on rentre à la maison. Eh bien, elle sera incapable de dire quelle était la couleur des chaises, incapable de dire par quel couloir elle est passée, donc s'il y avait du monde dans la rue ni quoi que ce soit. Parce qu'en fait, elle est dans sa tête. Elle vit dans sa tête. Elle n'est pas en contact du réel. Et pour empêcher que la tête s'emballe, eh bien, on fait revenir au réel. C'est-à-dire que, ok, quelle couleur la chaise sur laquelle tu t'es assise? Je sais pas. Regarde. Ah oui, elle est bleue. Et donc maintenant, tu vas sortir, tu vas faire attention, tu ouvres une porte, tu tapes sur une poignée. Donc, on fait revenir au réel. Et tant qu'on fait attention à la poignée qu'on ouvre, à ce moment-là, tac, on arrête de partir dans sa tête. Donc en fait, on fait revenir les gens à l'instant présent. Et d'un point de vue psychologique, donc c'est sauveur souvent pour certaines personnes angoissées, et ça fait un bien fou, parce que c'est pas compliqué d'ouvrir une porte. Mais c'est angoissant de penser ce qui va se passer à la maison quand les enfants nous auront pas vus pendant une journée entière. Et vous saisissez un petit peu. Donc, il y a une formule que vous pouvez noter si ça vous intéresse. L'instant présent, c'est le moment qui nous sanctifie, parce que c'est le moment où la grâce agit en nous. Elle n'agit pas dans le futur, elle n'agit pas dans le passé, la grâce. Elle nous sanctifie à l'instant présent. Et donc, l'instant présent, c'est le moment qui nous sanctifie, d'un point de vue surnaturel donc, mais aussi qui nous pacifie. D'un point de vue naturel, qui nous pacifie, qui nous apaise. Alors vous me direz, bon, c'est bien tout ça, mais l'instant présent, les moines ils peuvent le vivre parce qu'en fait ils ont une règle. Donc ils savent exactement ce qu'ils vont faire. À 5h30, nous c'est les vêpres. On ne se pose pas de questions. Et tout est parfaitement réglé dans notre vie. Mais nous on ne peut pas faire ça. Parce que ça bouge en permanence. Il y a plein de trucs à prévoir, les vacances, les courses, un tas de choses comme ça. Donc comment faire pour vivre l'instant présent en permanence, d'une certaine manière, tout en gouvernant donc notre famille, tout en faisant nos devoirs respectifs de père de famille ou de mère de famille. Prévoir, on dit que c'est gouverner. Donc il faut quand même prévoir. D'où l'importance d'une règle de vie. Alors, on va en parler, mais un petit peu maintenant. Vous avez lu, peut-être regardé la règle de vie que je vous ai donnée. Donc, peut-être pour certains d'entre vous. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. C'est pas très très compliqué. Mais déjà, ça donne des jalons. Et ça permet de pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Mais une fois qu'on a établi une règle de vie, qu'on l'a marquée, ça apaise aussi, parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Ce que je recommande aussi, alors bon, ça c'est pas toujours faisable, mais pour certains en tout cas, mais c'est d'avoir un planning hebdomadaire. Un planning hebdomadaire, c'est quoi? C'est d'avoir, vous savez, vous avez vos plannings professionnels, donc vous savez quand est-ce que vous travaillez, à quelle heure, choses comme ça. Les mères de famille aussi, elles savent quand est-ce qu'on fait des covoiturages, des choses comme ça, il y a des trucs qui sont déjà déterminés. Eh bien, marquez dessus aussi, sur ce planning d'une semaine type, ce qui touche à votre vie spirituelle. Par exemple, le matin quand je me lève, je suis aux raisons, au moins je fais ma prière le matin. Le chapelet, je le note de 13h à 13h30 parce que je vais, récupérer, non, je vais pas récupérer les enfants. Par exemple, de 15h30 à 16h, je vais récupérer les enfants, donc je marque mon chapelet. Donc voilà, dans la voiture, je reste mon chapelet. Donc essayez de marquer toute votre vie spirituelle à l'intérieur de ce planning-là, de façon à marquer au maximum les choses qui sont essentielles. Et déjà, c'est une bonne chose. Par exemple, le sport, je vous ai dit qu'il fallait faire du sport. Eh bien, prévoyez, bah, le sport, bah, je peux faire le jeudi, là j'ai un trou entre 13h et 14h, là je peux faire du sport. Bah, notez-le. Et vous venez tout ce que vous voulez faire. Et donc là, ça vous permet déjà d'avoir quelque chose qui est complet pour votre vie spirituelle, pour votre équilibre physique, au point de vue familial aussi. Donc toutes les semaines, on a prévu, par exemple, le devoir de s'asseoir. Certains couples le font toutes les semaines, d'autres tous les mois. Donc là, si toutes les semaines, vous le notez aussi. C'est le vendredi, voilà, de 20h à 21h. Très bien, c'est noté. Et le fait de tout prévoir comme ça à l'avance, ça permet aussi de se décharger. On n'est pas à réinventer à chaque fois quand est-ce que je fais du sport, quand est-ce que on fait notre planning, quand est-ce qu'on fait notre devoir de s'asseoir. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aider donc à maîtriser autant que possible. Ceci dit, il y a des plages de votre temps que vous ne maîtriserez pas du tout parce que une vie de famille, ça bouge. Donc il y a des temps qu'il faut laisser souple parce que c'est pas trop ce que vous ferez à ce moment-là, mais en tout cas vous vous occupez des enfants par exemple ou des choses comme ça. Et puis même si c'est des choses qui sont perturbées parce que vous avez des choses qui arrivent entre-temps, je sais pas, une très bonne amie qui vous téléphone qui est en larmes parce que son mari est à deux doigts de partir. Écoute, je regarde mon planning, là je suis désolé, là c'est ma lecture spirituelle. Je suis désolé, tu me rappelles, ouais tu me rappelles, donc je regarde, après-demain, à 15h, je suis libre. Donc non, faites pas ça, quoi. Tant pis pour la lecture spirituelle, quoi. Donc là c'est le moment. Donc il y a des choses qui vont être perturbées. Mais ça, c'est pas grave. Parce que quand même, vous avez quand même votre planning hebdomadaire. Ceci, voilà, donc mon avis vous aidera parce que nous, la force des moines, c'est pas notre personnalité. Quand on rentre, on rentre avec nos qualités et nos défauts, et notre bonne volonté. Mais ce qui fait notre force pour les moines, c'est précisément notre règle, la règle de Saint-Benoît. Parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Et ça, c'est vrai que c'est très apaisant et ça nous permet de pouvoir justement nous consacrer à l'instant présent. Car l'instant présent, donc comme on l'a prévu, comme il est ou du moins dans la règle de Saint-Benoît, il est prévu l'instant présent, on sait exactement ce qu'on va faire à chaque instant, et bien ça nous permet de nous concentrer vraiment sur l'instant présent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la vie monastique, parce qu'ils voient là une sorte de modèle. Donc beaucoup même également d'entrepreneurs qui voient une force dans la règle de Saint-Benoît parce qu'il y a des choses qui sont prévues et bien organisées et ça leur permet de prendre un petit peu idée pour gérer leur entreprise. Ça, vous voyez, c'est on était un petit peu comment vivre l'instant présent, on voyait la difficulté du futur, donc comment essayer de quand même d'envisager certaines choses, même si on vit l'instant présent, mais donc de prévoir le futur. Alors le passé, la difficulté sont les souvenirs que l'on a. On a des souvenirs qui sont mauvais quelquefois, et avec donc une culpabilité qui est inutile. Et il est important de comprendre une chose, c'est que quand on se confesse, Dieu pardonne les péchés, mais efface les péchés. C'est comme un tableau Velleda, si vous voulez. La différence entre les catholiques et les protestants, c'est qu'il y a un tableau Velleda. Aussi bien les protestants que les catholiques écrivent des horreurs sur le tableau Velleda. Mais les protestants disent, ce que fait Dieu, c'est qu'il prend donc un drap blanc et qu'il le jette par-dessus. Donc le tableau Velleda. Et donc on ne voit plus les horreurs. Nous catholiques, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il prend le drap. Et il efface tout. Il jette le drap. Plus d'un drap. Et nous, on arrive, alors surtout certaines personnes un peu scrupuleuses, et on met le nez sur le Velleda. Ouais, mais là, il reste quand même quelque chose là. C'est pas complètement effacé là, il y a encore une trace là. On voit quand même quelque chose. Vous voyez? Et ça, c'est le côté scrupuleux. Mais ça, c'est pas bien. Parce que quelque part, c'est une insulte vis-à-vis du bon Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'on remet en cause la capacité qu'il a de nous pardonner. Parce que nous, nous n'acceptons pas de nous pardonner, parce que notre petit orgueil est là, en disant tout de même, je me déçois d'avoir fait ça. J'aurais préféré ne pas le faire. faut accepter d'être justement un pécheur, mais un pécheur pardonné. Et donc accepter, bah oui, j'étais capable de faire ça, mais le bon Dieu était capable de me pardonner. Donc ça, c'est important aussi, vous voyez, de ne pas ressasser en permanence nos casseroles. Vous avez des casseroles qui font du bruit derrière, je suis d'accord. Eh bien, retournez-vous, prenez un ciseau et coupez les fils. Libérez-vous de vos casseroles. Dieu vous a pardonné, il faut également vous pardonner vous-même. Ceci dit, évidemment que quand on a commis certains péchés et qui ont des conséquences, il faut savoir assumer les conséquences de son péché aussi. Mais assumer les conséquences de son péché, c'est pas remettre en cause le pardon de nos péchés. Et ceci est important. Et quand vous pardonnez à votre conjoint, arrêtez, et surtout ne faites jamais ça, de lui ressortir après. Vous lui pardonnez ? C'est pardonné. On met les compteurs à zéro et on redémarre. Mais ne ressortez pas, parce que ça c'est le coup des mélancoliques, vous savez. Les mélancoliques, vous leur faites un truc, ils disent rien sur le coup, puis 6 mois après, ils vous ressortent le truc. Ouais, mais il y a 6 mois quand même, tu m'avais dit ça quand même. Ah bon, j'ai dit ça. Ah oui, je m'en rappelle très très bien, c'était là dans la chambre en haut, là, et tu m'as claqué la porte au nez, et à ce moment-là, tu m'as dit ça. D'accord. Et vous voyez, donc ça, c'est les mélancoliques qui ressassent tout le temps. Bon. Chaque tempérament a ses qualités, ses forces et ses faiblesses. Alors, pour ce qui est des souvenirs qui sont bons, je pense que c'est une bonne chose que de les ressasser d'une certaine manière. Un petit peu comme la Sainte Vierge qui méditait donc toutes ces choses dans son cœur. Donc ça, il y a des grâces, vous voyez, que vous avez reçues. Et je pense que c'est une bonne chose de s'en souvenir, comme la grâce du sacrement, par exemple. Donc de mariage, c'est bien de se rappeler de certaines choses. Maintenant, il faut éviter aussi de rêver tout le temps et de passer son temps dans les souvenirs passés. Voilà, quand j'étais jeune fille, je faisais plein de trucs, c'était trop bien. Voilà. Et oui, mais bon, vous êtes mariés. Alors, il y a un texte aussi qui est intéressant, d'une petite sœur du Sacré-Cœur tuée en Algérie le 10 novembre 1995. Vis le jour d'aujourd'hui. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu y pourvoira. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. C'est pas mal comme texte. Un bon petit résumé qui permet de respirer un petit peu. On a besoin de respirer. Alors, c'était donc premier point, aimer rien que pour aujourd'hui. Deuxième point, aimer toujours. Nous serons jugés sur l'instant présent au moment de notre mort. Or, Saint Jean de la Croix a écrit « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour ». Donc, il est capital d'être enflammé par l'amour à l'instant de notre mort. Et comme nous ne sommes jamais sûrs de l'heure de notre mort, il faut donc être toujours enflammé d'amour. Toujours enflammé d'amour. Par exemple, je raconte une histoire. J'étais en promenade avec les frères, c'était il y a 15 jours, et on est monté sur une crête. Bon, ça n'avait rien d'extraordinaire. Et puis on est descendu, c'était un peu raide. Un peu raide. Et puis, je descends, et à la fin de la pente, il y avait une grosse pierre. Grosse pierre qui était comme ça, et je mets mon pied sur la pierre, deuxième pied, et à ce moment-là, la pierre était ronde en dessous, et j'ai pas vu. Et la pierre part comme ça, elle roule. Donc les deux pieds partent en avant, et je tombe à la renverse, sachant que derrière il y avait des très grosses pierres. Donc ça s'est passé en une fraction de seconde, et je suis tombé sur une pierre qui était grande comme ça. Tac, tac. Est complètement plate. Et mon dos est tombé pile dessus. Donc tout a craqué sur le dos, mais j'ai aucune séquelle. Ça aurait été bombé, j'étais fracassé, ou la pierre était déplacée, j'étais sectionné, ou une pierre derrière pour la tête, puis il y a plein de pierres, pas de réco. Donc je veux dire par là que voilà, ça peut aller vite. Et je me suis posé la question, mon petit gars, t'étais frais là ou pas là? Ça aurait pu être mieux, quoi. Donc. Et oui, c'est ça le problème. C'est que la mort peut arriver très vite, en fraction de seconde. Pas forcément, qu'à fond, on la voit arriver et elle ne fait que tarder, si je peux dire, hein, dans certains cas. Mais, donc il faut toujours être enflammé de l'amour de Dieu. Toujours. Et dans le sacrement de mariage, eh bien, il y a une aide, justement, pour mieux aimer. Vous avez de la chance d'être marié. Il y a des jeunes filles qui ne sont pas mariées. Je connais des jeunes filles qui désespèrent de se marier. Je suis toute seule. Je connais même qui me mettent des couverts en face, vous voyez, pour pas l'impression d'être toute seule le soir. C'est sévère quand même. Et pourquoi c'est bien d'être marié? C'est que ça peut vous aider justement à aimer. L'autre peut vous aider donc à aimer davantage. Dans l'Ancien Testament, le mariage était une institution naturelle. Vous le savez certainement, c'était un simple contrat. Donc c'était un amour naturel entre les gens qui étaient mariés. Mais dans le Nouveau Testament, eh bien, le mariage est élevé à l'ordre surnaturel, grâce au sacrement. Or, le but du sacrement de mariage, c'est de sanctifier les époux, de les rendre saints. Or, si la sainteté consiste dans l'amour, donc le sacrement de mariage aide pour aimer plus et mieux, d'une façon surnaturelle. Et donc, vous voyez que vous avez de la chance parce que ce sacrement-là va vous aider justement à aimer davantage d'un point de vue surnaturel. Donc l'amour du couple chrétien, c'est un amour de charité. C'est pas comme dans l'Ancien Testament, dans les Juifs, où c'est simplement un amour naturel. C'est un amour de charité. Et qu'est-ce que c'est que la charité? La charité, c'est le cœur de Dieu qui est mis dans le nôtre. En fait, c'est une vertu théologale, si vous voulez, pour parler plus théologiquement, et qui infuse dans l'âme et qui nous permet d'aimer comme Dieu aime. Donc, moi, j'ai une petite image qui permet de mieux comprendre cela. Le turbo. Donc, vous mettez un turbo dans votre cœur. Mon père, il avait, avant que j'entre au monastère, c'était une R30 diesel turbo. Et donc quand on conduisait avec cette voiture-là, qu'on accélérait, ça montait, ça et là tout d'un coup on sentait, maintenant les turbos c'est autre chose, on les sent plus du tout quoi. Mais à l'époque on sentait tout à fait le turbo se mettre en place. Et bien là c'est un peu la même chose. Mais le turbo il est installé dans le moteur, c'est pas un deuxième moteur. Là on m'a raconté qu'il y avait une voiture qui existait là, où il y avait un double moteur, un devant, un derrière, et donc on montait à 350 à l'heure avec... Je sais plus, c'est une Bugatti, et donc on pouvait rouler avec le premier moteur, et quand on voulait faire une pointe, on appuyait sur un bouton qui était à droite, là, clac, et le deuxième moteur derrière se mettait en marche, et donc ça faisait quatre roues de motrice, et là on faisait une pointe monstrueuse, quoi, 350 à l'heure. Et ben c'est pas ça le turbo, ça c'est deux moteurs. Nous on a qu'un seul moteur, on a qu'un seul cœur, on n'a pas deux cœurs. Mais Dieu mettant son cœur, son propre cœur, dans le nôtre va démultiplier donc notre capacité d'aimer. Vous comprenez? Vous me suivez, non? Les hommes, je pense que ça va, les femmes, je sais pas, mais... Donc... donc ça c'est important à comprendre. Cela est important dans notre vie familiale ou de couple, c'est-à-dire qu'il y a des grâces que l'on reçoit qui permettent d'aimer d'une façon incroyable. Je pense à un prêtre en particulier là, qui suivait un couple et donc l'homme en fait a franchi la ligne blanche, c'est-à-dire qu'il a trompé sa femme. C'est un homme exceptionnel pourtant, mais il a joué avec le feu. Et il s'est brûlé. Donc il a trompé sa femme et au bout de 3 mois, il a avoué à sa femme qu'il avait une autre femme dans le cœur, qu'il ne l'aimait plus et qu'il aimait une autre femme. Alors c'était un choc terrible et donc cette femme est sortie de l'église, a rencontré ce prêtre et le prêtre s'est mis à pleurer avec elle parce que le prêtre connaissait très bien ce couple. Et cette femme, en voyant ce prêtre pleurer, elle a dit, mais j'ai vu Dieu pleurer. Elle a reçu une grâce absolument incroyable. Elle a pardonné à son mari, alors qu'elle était mélancolique, cette femme-là. Donc c'est une femme qui pardonne très difficilement. Elle a pardonné à son mari, et elle est devenue, alors qu'elle était assez froide physiquement avec son mari, elle avait beaucoup de mal à montrer son affection extérieurement, et ça... Elle a reçu une grâce où là même, elle arrivait à montrer son affection d'un point de vue physique à son mari. Mais aucun psychologue n'aurait pu faire ça. Aucun psychologue n'aurait pu faire ça. Elle aurait pu suivre toutes les thérapies qu'elle voulait. Là, ça s'est passé en quelques secondes. Elle a reçu une grâce incroyable. C'est ça le turbo. On a une capacité à l'intérieur d'aimer. Elle s'est pris un coup de turbo, là, elle a fait une pointe à 350 à l'heure, la fille. Donc, quelque chose d'incroyable, quoi. Alors qu'elle roulait à 10 à l'heure, quoi, elle n'en pouvait plus. Elle avait du mal à aimer vraiment son mari, quoi. Vous imaginez le choc que c'est quand un mari qui est excellent en tout, qui vous dit ça, mais elle n'en revenait pas, quoi. Je t'aime plus, j'aime une autre femme, quoi. Et heureusement, grâce à Dieu, là aussi, il y a eu tout un travail qui s'est fait chez l'homme, chez le mari. Et donc, il est revenu donc, à sa femme. Et bon, il faut qu'il fasse encore une guérissure dans son cœur encore. Mais c'est bon, il est revenu, grâce à Cotignac, justement. Alors, donc, pour vous dire, voilà, on a une capacité beaucoup plus grande que nous le pensons. Et puis, il y a aussi une chose qui est très belle dans le sens que l'amour chrétien est un amour de charité. Comme je vous ai dit que c'est le cœur de Dieu qui est mis dans notre cœur, c'est le même cœur de Dieu qui est mis dans le cœur de votre femme aussi. Donc, en fait, vous allez pouvoir vous aimer en Dieu. Parce que c'est le même cœur qui est mis dans les deux cœurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous allez pouvoir vous aimer en Dieu et faire une unité en vous. Même si d'un point de vue humain, vous avez quelquefois un peu de mal à vous aimer, au moins en Dieu, vous arriverez à vous aimer. Parce que la source de votre amour sera le même cœur de Dieu. Alors maintenant, quelques moyens concrets pour entretenir le sacrement de l'amour du mariage. Il faut tout d'abord réaliser que le sacrement de mariage, le sacrement de l'amour du mariage, n'est pas un sentiment. Ça, c'est important de le comprendre. Le mariage, c'est une construction. Si vous n'avez pas compris ça, et pour vous, ce n'est que du sentiment, ah, c'est le fait de ressentir de l'affection pour ma femme et que ma femme ressent, vous allez vous planter. Parce que le sentiment, ça varie, vous savez. Ça bouge. Et tandis qu'une construction, c'est stable. Et pour vous, les maris, je vous invite vraiment à comprendre cela. Vous construisez quelque chose avec votre femme. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, pensez à rendre heureuse votre femme. Il y a deux qualités pour un homme. Retenez bien. Je t'ai déjà dit, je ne sais pas. Donc, c'est la force et la bonté. La force et la bonté. Soyez forts. On a besoin d'hommes forts aujourd'hui. Des hommes intégraux. Donc, faites du sport de combat si vous voulez, j'en sais rien. Prenez des trucs de risque, alors pas au point de perdre votre vie, mais il faut des hommes forts, faites de la muscu si vous voulez. Donc, mais il faut que vous soyez forts, mais surtout une force intérieure. Une force, pas simplement la force extérieure, mais une force intérieure. Que votre femme puisse s'appuyer sur vous. Et maintenant, on n'a plus d'hommes. C'est ça le drame. On a efféminisé tous les hommes, pas tous peut-être, mais il y en a encore ici, j'espère. Donc, et donc, on développe les vertus féminines, vous savez que le gender, maintenant, voilà, on mélange tout, et les femmes deviennent des hommes. Donc, il faut que les hommes soient forts, mais il faut que les hommes soient bons. Un homme qui n'est pas bon, c'est l'horreur. Parce qu'à ce moment-là, il va tout écraser. Et je connais des hommes qui sont très forts, mais qui sont pas bons. Ça peut pas marcher dans un couple. C'est pas possible. Mais s'il n'est que bonté, bah, il est bien, mon mari est gentil, mais enfin, bon, voilà, comme il n'est pas fort, bah, j'ai un gros nounours avec moi, quoi. J'ai 5 enfants et un 6e, quoi. Donc, il faut les deux qualités, oui, pour l'homme. Donc, les hommes, vous êtes les chefs de famille. Vous êtes les chefs de famille. Ne vous laissez pas dominer par vos femmes. Donc, c'est important. Je sais que les femmes sont précises. C'est redoutable, une femme. Parce qu'elles sont précises, elles analysent très très bien les trucs et tout. Je sais bien avec mes filles spirituelles. Hein, donc, elles sont... Mais Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on se sent un peu désarçonné face à la lucidité des femmes qui ont l'art de voir ce qu'il ne faut pas voir. Et donc, quelque part, elle nous désarme. C'est vrai, mais justement la femme, c'est une qualité, parce que cette qualité-là est essentielle dans l'éducation des enfants. Si la femme n'était pas intuitive et qu'elle ne sentait pas les choses, c'est pas le mari souvent qui remarque le truc. Non, il a remarqué. T'as pas vu Virginie, elle va pas bien, là? Ben non, je sais pas, non, j'ai pas vu, non. Enfin, t'as pas vu sa démarche, sa façon dont elle a fermé la porte? Ben non, je vais la fermer la porte, quoi. Oui, donc les hommes, ils ont du mal donc à sentir. Donc les femmes ont une qualité extraordinaire, c'est l'intuition, tout ça. Mais l'homme est un petit peu quelquefois désarçonné. Donc il faut que voilà, les hommes soient des chefs de famille. Je me rappelle, j'étais dans le TGV et il y avait devant moi une musulmane avec sa petite fille qui avait 10 ans. Et la petite fille demande quelque chose donc, à sa maman. Et la maman dit non. Et à ce moment-là, elle passe derrière, elle va voir son papa et elle revient. Elle dit, papa, il m'a dit ça. Et de toute façon, c'est pas toi le chef de famille, hein. C'est pas toi le chef de famille. C'est papa le chef de famille. Alors, ils ont une conception peut-être justement de l'autorité. Mais ils l'ont encore, d'une certaine manière. Un peu dévoyé, on va dire, hein, peut-être. Mais pour eux, dans la famille, c'est le papa qui est le chef de famille. Et donc c'est important que l'homme dirige et donc construise son couple. Construise. J'y ai des hommes, et ma femme, j'arrive plus, tout ça, mais écoute, tu veux t'en sortir là? Je vais donner un bon conseil là, anticipe. Avant qu'elle te demande un truc, dis donc, tu pourrais pas aller tondre la pelouse, fais-le avant. Comme ça au moins elle t'embêtera pas. Non. T'es tranquille. Donc maîtrise, arrête de te laisser maîtriser, maîtrise, prends les devants quoi. Sois chef quoi. Donc. Mais il faut aussi que les épouses acceptent aussi d'avoir leur rôle, justement, de conseillère. C'est votre rôle, conseillère. Mais pas toujours d'avoir le dernier mot. Sinon, c'est la crise et autres. Voilà. Donc, faut que chacun tienne bien sa place. Donc, voilà. Construire son couple. Après, la prière. Donc ça, c'est un moyen concret pour entretenir le sacrement de l'amour. Donc, il y a trois sortes de prières. Pour moi, la prière personnelle, en général, c'est plutôt le matin parce que vous ne levez pas en même temps. Une prière conjugale, ça je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Et puis la prière en famille, qui est adaptée aux enfants. Là, c'est pareil, il faut que les pères de famille soient présents. Et donc, dans cette prière de famille, ce ne soit pas toujours l'épouse qui soit là. Mais aussi, ce n'est pas forcément non plus au père de faire la prière. Pourquoi pas demander aussi à des enfants, faire des tours, vous voyez. Donc ça, ils aiment beaucoup ça, les enfants. Faut que ce soit pas trop petit quand même, mais voilà. Le mercredi, c'est toi qui préside la prière. Oh, ah d'accord, très bien. Alors tu trouves une prière, hein. Tu trouves ton cher Jean-Michel, tu regardes, il y a des petites prières. Ah j'ai regardé, oui. Donc et donc comme ça, hop, l'enfant, il y a un roulement qui peut se faire. Mais il faut que tout le monde soit là, et le papa et la maman. Après, je pense une bonne chose aussi, c'est de prendre un père spirituel pour le couple. Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles, hein. Donc il y a des écoles qui disent il est préférable que chacun ait un père spirituel différent. C'est un avantage, c'est-à-dire qu'au moins il y a un mur complètement hermétique. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose au père, là, ben, c'est sûr qu'il n'aura pas à le rapporter à l'autre personne, il ne la connaît pas, l'autre personne. Donc au moins ça permet peut-être une ouverture d'âme plus grande. Mais j'y vois aussi un inconvénient, c'est-à-dire que si vous dites tout ce qui ne va pas, parce qu'en général c'est ce qui ne va pas, hein, donc ce qu'on dit à son père spirituel. Donc ce qui va aussi, mais bon, ce qu'il faut, on l'oublie un petit peu. Et bien, évidemment, comme il n'a qu'un son de cloche, il va vous soutenir. Et puis l'autre, il va dire ça à un autre père spirituel. Oh, franchement, oh, t'as pas de bol d'avoir un mari comme ça, franchement. Et puis toi, alors là, donc une fille comme ça, t'as pu trouver mieux quand même. Donc, chacun va vous soutenir et donc il va pas faire l'unité dans le couple. Tandis que si c'est le même père spirituel, moi j'applique ce principe-là, j'écoute l'épouse. Alors il y a ça qui va pas, il a encore recommencé, puis il a fait ci, c'est là, d'accord, très bien, parfait. Bon, ouais. Donc après, je prends l'époux et. Ah oui, tiens, non, elle a pas fait ça quand même. Ah si, elle a fait ça. Bah, c'est pas possible, mais elle ne me l'a pas dit ça. Bah, elle va pas vous le dire. Donc, et là, j'ai les deux sons de cloche. Et ça me permet de pouvoir, après, Donc, en gardant quand même le secret de certaines choses qui doivent être gardées comme secret, de faire l'unité. Et puis parce que l'épouse sait que j'ai aussi entendu le mari. Donc elle fait attention à ce qu'elle me dit, parce que si elle me dit un truc à moitié faux, c'est très bien que retour de boomerang par le mari. Donc ce qui fait qu'elle fait attention à ça. Donc je pense que ça, c'est très utile que d'avoir un père spirituel qui soit pour les deux. Bon, maintenant, ce n'est qu'un conseil. Et si vous ne pouvez pas avoir un père spirituel parce que vous avez du mal, je sais que les prêtres sont rares maintenant, si je peux dire. Encore dans la tradition, on en a quand même beaucoup. On a une chance immense, hein. Vous avez une chance immense, mais je sais qu'ils sont tous débordés, notamment à Versailles. Bah, au moins, si vous en connaissez un, de temps en temps, allez le voir. Donc, et puis voilà, et si, qui vous aide ponctuellement de temps en temps. Le devoir de s'asseoir. Ça, c'est un point très important. Je vous l'ai dit, il y a deux choses qui me semblent importantes. C'est la communication dans le couple, d'un point de vue naturel, et puis la prière. Et la communication, c'est vrai qu'elle peut se faire au quotidien, comme cela, on échange des choses. Mais je pense qu'il faut des moments pour s'asseoir. Dans tous les mouvements de couple, que ce soit les équipes Notre-Dame, Domus, Cana, Chapitre Agricole et puis tous les autres mouvements qui peuvent exister, tous ces mouvements-là insistent sur le devoir de s'asseoir. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est vital. Alors qu'est-ce qu'il faut voir dans le devoir de s'asseoir ? Tout d'abord, il faut fixer un jour fixe, une heure fixe, qui n'est pas à la maison. Parce que si elle est à la maison, l'épouse, c'est un radar. L'épouse, elle va être là, elle va écouter les enfants qui sont là, elle va dire, tiens, ça se trouve, faut que je mette le truc au frigo, et donc elle ne sera pas tranquille. Donc, le mieux, c'est de choisir un endroit neutre. Par exemple, vous allez au resto. Ça peut être sympa. Ou sinon, vous allez marcher dans la nature pendant une heure, deux heures. Mais un endroit où vous n'avez rien qui va vous perturber. Vous êtes uniquement attentif à l'autre. Vous coupez vos téléphones, évidemment, hein, donc sinon... ça a rien. Premièrement, c'est ça. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Vous avez un questionnaire que je vous ai donné. Ça peut aider. Donc, énormément. Donc, gardez-le, ne le perdez pas, faites-le photocopier, donnez à d'autres personnes. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est une règle de vie. C'est pour ça que je vous ai donné aussi une règle de vie. Donc, vous établissez un certain nombre de choses qu'il faut voir dans ce moment-là. Donc, on n'arrive pas les mains dans les poches avec... un petit carnet ou son iPhone, on a noté tous les trucs à régler avec son mari. Hein, voyez. Donc là, il y en a marre de ça, il y en a marre de ça, je ne supporte plus. Donc là, il va voir. Là. Donc vous voyez, donc, on arrive avec une Kalachnikov. Et donc ça, c'est l'horreur. Ça marchera une fois, mesdames, mais pas deux fois. Je peux vous dire que le mari, après, il n'aura plus le temps, il n'arrivera plus, il sera trop fatigué, parce que ça, il ne supportera pas. Donc si c'est un règlement de compte, ça ne marchera pas. Donc ce qu'il faut... c'est établir un certain nombre de choses. Donc la règle de vie, ok, prière de couple, où est-ce qu'on en est? Bah oui, cette semaine, c'est ce mois-ci, ça n'a pas été terrible, quoi. Ok. Bon, avec les enfants, la prière avec les enfants, bah ça c'est bon par contre. Ok. Et donc vous voyez la règle de vie. Après vous pouvez voir vos parents, vos enfants, faites le point. Par exemple, tiens, Clotilde, là, visiblement, elle va pas très très bien. Là. T'as remarqué, faudrait peut-être quand même qu'on la fasse voir par un médecin. Ah ouais, ok, pas de problème, je m'en occupe là. Dans la semaine, je téléphone au médecin, je gère. Très bien. Bon, c'est un truc de régler. Donc, vous voyez tous les points comme ça, donc qui sont importants. Plus les petites feuilles que je vous ai données, qui est pas mal parce que c'est d'ordre plutôt psychologique, affectif, mais c'est important aussi de dire comment t'as vécu, quelle joie t'as eu depuis le dernier mois, quelle chose ne va pas, est-ce que je t'ai blessé d'une certaine manière. Donc ça aussi, il faut le voir. Donc c'est une construction, vous voyez, que vous faites. Mais dans toutes les entreprises, ils font ça. Il y a des debriefings. Dans toutes les entreprises. Il n'y a aucune entreprise qui n'a pas ce système-là. Or, vous avez une entreprise avec une associée ou un associé et des petits employés. Hein. Et bien, ça, il faut le gérer. En professionnel, s'il vous plaît. Pas en amateur. Parce que l'amateur, dans une entreprise, c'est surtout en ce moment, hein, ça fait très mal. Et dans les familles, c'est pareil. En ce moment, ça fait très mal. Et si vous gérez véritablement, vous construisez votre couple, et vous n'êtes pas là à vivre d'amour et d'eau fraîche, tout marche bien, voilà. Pourquoi on est dans un perspi, tout va bien. Donc c'est comme les voitures, hein. Quand on achète une voiture qui est toute neuve, pas besoin de faire des révisions, elle marche ma voiture. Bah oui. Puis un jour, elle ne marche plus du tout, quoi. Et là, quand vous l'amenez, le concessionnaire vous dit, disons, fichez le mot, quoi, là. Il y a des révisions à faire, là. Donc, vous n'avez pas fait les révisions. Maintenant, c'est ça, pouf. il faut changer de voiture. Donc, changez pas de femme pour autant. Non. Mais c'est pour ça, donc, faites des révisions. Faites des révisions et donc, faites cela. Donc, je pense que ça vous aidera beaucoup de devoir s'asseoir. Voilà, donc, j'en ai quasiment terminé. La dernière chose que je dirais simplement que faites confiance aussi, donc, à la providence et à la vertu d'espérance. Encore une fois, parce qu'il y a la grâce. Souvent, les parents sont un peu désespérés quand ils ont un certain âge, qu'ils ont éduqué leurs enfants, et qu'ils se disent, bah, vous savez, mon père, c'est pas si brillant que ça, quoi. On n'a pas trop été à la hauteur, ni quoi que ce soit, et tous les défauts, ou les jeunes mamans, hein, ou les jeunes parents qui disent, mais est-ce que j'y arriverai, franchement, à transmettre quelque chose vraiment à mes enfants, dans la situation actuelle, puis avec les limites que j'ai du mal. Je dis, ok, il y a des nids de poules. Vous voyez, sur la route, il y a des nids de poules. Mais en fait, c'est le bon Dieu qui comble les nids de poules. Et moi, je suis impressionné parce que bon, je suis en contact avec beaucoup de jeunes depuis des années, donc des adolescents entre 15 et 20 ans essentiellement. Et je connais des parents aussi, parce que des fois, je suis les parents et les enfants, ce qui n'est pas idéal d'ailleurs. Mais, et je vois bien que, en fait, eh bien, les enfants ne sont pas si marqués que ça. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas tout seul à éduquer vos enfants. Vous avez du scoutisme. Vous avez le chapitre Saint-Lazare, vous avez le patronage, vous avez le catéchisme, vous avez des prêtres, vous avez des écoles. Tout ça également, vous voyez, travaille pour le bien de vos enfants. Il n'y a pas que vous. Et puis surtout, il y a la grâce. Et donc, la grâce travaille les cœurs. Et vous avez des enfants qui sont, bah, qui sont vraiment bien. Et on se demande, bah oui, mais comment j'ai fait ? Bah, tu n'étais pas tout seul non plus, quoi. Tu vois, il ne fallait peut-être pas paniquer autant. Ceci dit, il faut faire le maximum. Mais encore une fois, ne croyez pas que vous êtes uniquement les responsables de vos enfants. Donc, il y en a d'autres qui les aident aussi. Donc, il faut avoir confiance dans la providence, confiance dans la grâce, et que vous avez la chance d'être ici, à Versailles. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous avez tout à Versailles, quoi. Donc, en province, c'est la galère pour trouver une messe, et une messe traduite en plus. C'est difficile. Et là, on n'a pas le choix des prêtres. Hein. Donc, on a le prêtre diocésain qui n'est pas trop convaincu, qui nous dit la messe, et puis c'est juste la messe, il n'y a pas d'autre sacrement à côté, quelquefois. Donc là, vous avez une chance immense. Donc, voilà. Mais, soyez pas triste, hein, soyez heureux de cette chance-là. Hein. Donc, n'ayez pas vous culpabiliser d'être heureux. Hein. Donc, voilà. Mais écoutez. J'en ai terminé, j'aurais pu continuer encore longtemps, mais je ne veux pas vous retenir, comme ça vous laisse un bon temps encore, une bonne demi-heure, pour pouvoir continuer donc à vous voir en couple, peut-être ces moments, peut-être le moment de vous voir en couple, d'établir peut-être, oui, pour le devoir de s'asseoir, cette liste, vous voyez, des choses qu'il faudrait voir ensemble. Mais je vous invite vraiment à ce que cette récolution débouche sur du concret. Pas un moment, oh, c'était franchement trop sympa, c'est très cool. Là. Donc, non, ça, c'est intéressant. Oui, c'est bien, si vous voulez, pour autant que ça a été bien. Mais je veux dire, surtout, essayez de trouver des moyens concrets. Voilà. Que ça change quelque chose dans votre vie. Vous êtes en plein carême, c'est le moment d'être réaliste et de prendre des bonnes résolutions.